J'espère que tu as passé un bel été. Merci beaucoup de faire partie de cette saison de Marceau le matin. C'est un plaisir de t'avoir. Puis on apprend tout le temps des choses intéressantes avec toi, mon ami. Donc, merci beaucoup d'embarquer dans l'aventure encore une fois.
Arrête, tu vas me faire rougir, mais c'est un plaisir à toutes les semaines d'être avec vous, les boys.
David, est-ce que Benjamin Netanyahu est le caillou dans le soulier de Donald Trump actuellement?
Ah, 100%, parce que là, ce qu'on réalise avec le temps, là, c'est pas nouveau de cette semaine, mais finalement, Israël a entraîné les États-Unis dans un conflit régional pour faire le ménage à leurs yeux, de régler des vieux problèmes avec Gaza, la Palestine, avec l'Iran plus récemment, puis tout ça. Puis là, ben, les États-Unis ont embarqué en disant « Voici notre legs historique. » C'est maintenant l'administration Trump et tout ce qui vient avec. On va régler des problèmes pour les décennies qui s'en viennent. Finalement, ben là, Netanyahou veut pas respecter le plan de paix à Gaza parce que lui, il veut continuer son ménage. Puis les États-Unis, eux, localement, ont beaucoup de misère politiquement à justifier toutes ces interventions-là. Donc, ça finit que c'est pas vraiment eux autres, je parle des États-Unis, du gouvernement Trump, qui a le leadership dans une guerre qui sont eux autres front d'amener à 100% à déployer leur armement, leurs soldats, puis l'argent qui vient avec. Là.
C'est quand même assez incroyable d'apprendre que les États-Unis sont sur le point de manquer de missiles pour poursuivre leur guerre avec l'Iran. Est-ce qu'on aurait mal informé Donald Trump? Est-ce qu'on aurait mal informé Exet?
Ben c'est ça. Là, les rumeurs qu'on entend en ce moment, c'est que Donald Trump est très fâché après Pete Hegseth parce que il aurait pas eu la bonne information justement avec ses missiles à longue portée. Là, on parle de missiles Tomahawk, de missiles Patriot qui sont anti-aériens, puis d'autres équivalents comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça l'est pas? Je le sais pas vraiment, honnêtement, parce que je reste sceptique à croire que l'armée américaine a laissé j'ai juste le mot anglais en tête, leur stockpile, leur stock en entrepôt diminue aussi rapidement que ça sur des choses aussi stratégiques. T'sais, un missile Tomahawk, c'est pas mal la base, le pain et le beurre d'une guerre. Là, donc là, de laisser tomber ça à des réserves très basses, c'est préoccupant. Puis ça a des impacts qu'on n'avait pas prévu, mais par exemple, l'Ukraine avait besoin a quelques batteries Patriot là, localement pour défendre Kiev notamment. Mais là, c'est beau avoir la batterie, il faut que tu mettes des missiles dedans. Puis là, les États-Unis ont arrêté d'en livrer parce qu'ils en manquent eux-mêmes. Donc là, ça semble être assez véridique comme situation. Puis c'est problématique parce que là, Kiev, dans le fond, doit être défendu. Puis les missiles balistiques russes passent comme un couteau au chaud dans le beurre. Là. Donc là, ça a des conséquences un peu partout dans le monde.
C'est particulier parce qu'on a l'impression que Donald Trump, qu'on le veuille ou non, c'est l'homme le plus puissant de la planète. On a l'impression qu'il est quand même bien entouré. Puis son chef des armées, Dan Kane, l'aurait prévenu, en fait, du moins lui ou Exet, que ce serait très difficile avec l'Iran, qu'il y avait une possibilité avec le détroit d'Ormuz, qu'on prenne le détroit d'Ormuz en otage, qu'on n'était peut-être pas équipé en matière de missiles là, pour être capable de faire une guerre longue. Est-ce qu'on va tenter de trouver un bouc émissaire comme porte de sortie? Là? Et j'ose présager que c'est pas Donald Trump qui va dire « Excusez, c'est de ma faute, je recommencerai plus jamais. »
Oui, ça serait surprenant que Donald Trump fasse acte de construction de la sorte. Là. Gardons toujours en tête la même chose. Hein? Les midterms s'en viennent, puis il faut sauver la face. Il faut démontrer qu'on est en contrôle ou que la stratégie fonctionne, puis que c'est nous qui va continuer à mener le pays à bonne place. Donc là, de sacrifier un Pete Hegseth qui est quand même assez populaire, ou en tout cas, peut-être pas populaire, mais connu là aux États-Unis, puis qui est une figure de proue de l'administration, ça serait un gros une reconnaissance finalement de l'erreur de cette guerre-là. Une guerre qui est très impopulaire aux États-Unis en ce moment. Donc là, Donald Trump, sa stratégie semble plutôt se déployer vers banaliser, si on veut, l'Iran, puis dire « Ah, on fait une semi-négociation, là, puis ça, c'est pas mes mots, c'est les siens, là. On semi-négocie avec eux, puis regarde, si ça fait pas, on ira ailleurs. » Puis là, ben on entend des jeux de coulisses qu'apparemment qu'on voudrait peut-être même faire un deal sans inclure le nucléaire là-dedans, puis de finalement juste s'assurer que le détroit est rouvert, qui, rappelons-le, à chaque fois qu'on parle de cette guerre-là, il était très ouvert avant de rentrer là, gros gens comme devant. Donc là, on essaie juste de ménager la chef et le chou. Je pense pas qu'on va sacrifier personne d'ici le midterm, mais on va probablement juste essayer de faire arrêter de parler de ce conflit-là puis trouver une autre crise ailleurs, j'imagine, pour changer l'orientation de l'intérêt public. Là.
Est-ce que les États-Unis peuvent se faire tasser de la table de négociation avec ce qui se passe entre l'Iran, le détroit d'Oman, d'Hormuz? Le sultanat d'Oman semble prendre de plus en plus de place à la table de négociation. Bien honnêtement, le sultanat d'Oman, je savais pas que c'est un pays. Là. J'avais sûrement entendu parler de ça, mais c'est un très petit pays, c'est une très petite bourgade quand même assez proche de l'Iran. Il semblerait que c'est eux qui s'expriment autour de la table de négociation et que c'est eux qui commencent à dealer avec les Iraniens. Est-ce que les États-Unis pourraient être tassés de la discussion?
Bien, ça serait difficile de les tasser complètement parce que c'est eux, finalement, qui génèrent ce conflit-là en disant « si vous ne me donnez pas ce qu'on a besoin, on va frapper encore ». Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de négociations en parallèle qui se développent. Rappelons qu'au départ, c'était le Pakistan qui gérait pas mal ça, qui était l'espèce de nouvelle Suisse, là, pour les négociations, c'est eux qui ont amené à l'accord de paix qui n'a pas été respecté finalement. Donc là, tu parles d'Oman. Il y a l'Arabie Saoudite aussi qui commence à taper du pied parce que eux, ils frappent pas personne. Ils font juste manger des missiles sur la poire parce que l'Iran, dans le fond, se sert de l'Arabie Saoudite pour générer de l'intérêt pour le conflit. Donc là, il y a plusieurs pays dans le secteur qui vont commencer à se dire là, si vous réglez pas ça à notre place, nous, on va faire des deals bilatéraux. Donc là, Oman semble vouloir aller vers là. Puis l'Arabie Saoudite, je serais surpris qu'ils négocient avec l'Iran directement parce que c'est des ennemis jurés, mais pourquoi pas une fois qu'on n'a pas de porte de sortie puis il faut que ça arrête un jour. Puis l'Iran semble être adopté beaucoup la posture de Donald Trump, c'est-à-dire faire de la négociation transactionnelle, de dire « Écoute, si tu me donnes des concessions, je serais willing de jaser avec toi, du moins à court terme, parce qu'évidemment, ça va rester des ennemis jurés pour toujours. » Mais là, ça commence à parler de payage dans le détroit d'Hormuz, puis de droit de passage, puis de même de se faire rembourser les dommages de la guerre comme condition pour ramener la paix, finalement. Donc là, est-ce que des pays de cette région-là vont faire des deals bilatéraux en excluant complètement les États-Unis pour avoir la paix pour eux-mêmes? Je serais je serais pas surpris, en fait, que ça arrive, parce que le conflit s'étire, puis on voit pas de porte de sortie claire en ce moment. Non.
David, pourquoi Israël ne démontre pas un peu d'ouverture, surtout là dans le dossier avec le Hamas et la bande de Gaza, là, où justement là, les États-Unis et d'autres pays affiliés ont un plan quand même assez clair pour le désarmement du Hamas?
Bien, en fait, il y a deux raisons. Là. Il y a la raison historique et la raison politique. Donc là, à court terme, Netanyahou est en élection, je pense, que c'est en octobre prochain. Puis là, il y a la wing un peu plus fondamentaliste en Israël, qui est très forte, puis qui est sa base militante, qui dit « on fera pas de concessions, c'est le temps de faire le ménage, on règle ça une fois pour toutes, continue ». Donc ça, c'est sa base militante, puis lui, il est à l'écoute de ça, parce que rappelons aussi qu'il est en procès, lui, pour des histoires de corruption, puis de rester au pouvoir, c'est pas mal une des seules façons d'éviter ce procès-là. Là. Donc, il y a tout intérêt à garder le conflit actif pour pouvoir satisfaire cette base-là. L'autre bord historique, ben, tu sais, Israël existe depuis 1947, puis depuis 1947, toute la région essaie de faire disparaître ce pays-là. Donc, longtemps, le pays Israël a eu un capital de sympathie assez élevé parce qu'on se disait, ben là, tu sais, on connaît toute l'histoire, tu sais, l'Holocauste, puis bon, les Juifs qui s'établissent dans un État. Puis ils ont le droit de survivre. Mais là, maintenant, c'est complètement flippé de bord parce que là, tout le monde se dit, là, il est temps que ça arrête de tuer tout le monde, finalement, dans la région. Mais pour leur perspective à eux, locale, Israël se dit, non, man, là, c'est le temps de faire le ménage pour vrai puis d'assurer la survie de l'État pendant 150-200 ans en avant. Donc, on n'arrêtera certainement pas. Donc là, c'est comme un engrenage vicieux qui avec le gouvernement en place, ne devrait pas s'arrêter, voire même s'accélérer.
Parfait. Les négociations avec les États-Unis pour les frais de douane, écoute, c'est quoi? Ça rentre en vigueur, les taxes supplémentaires de 50% sur les exportations canadiennes, ça rentrerait en vigueur le 19 août. On trouve que c'est une ligne qui est quand même assez précise, là, le 19 août. Il n'y aura probablement pas de négociation après cette date-là. Les gens sont extrêmement stressés. Mark Carney fait beaucoup de concessions. On a accepté de payer à la place des diffuseurs numériques une propre taxe pour le contenu canadien. On a cédé la moitié des profits nets du péage sur le nouveau pont Gordie Howe. On a enlevé certains trucs qui déplaisaient aux Américains. Puis de l'autre côté, on a le gros orange qui a augmenté de 50% le 19 août. On peut-tu gagner quelque chose à faire pression sur Donald Trump actuellement, d'ici le 19? Puis est-ce qu'on compte sur Dominique Leblanc, le très beige Dominique Leblanc, pour négocier de bonne foi avec les États-Unis?
Ben écoute... Premièrement, d'un point de vue macro, je pense que le gouvernement Carney joue la cloche, eux aussi, parce que je vais ramener encore les midterms. Tout le monde se dit que les Républicains vont perdre à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, puis les tarifs et les négociations. Le Congrès a quand même un rôle à jouer pour accepter des nouveaux tarifs ou au moins éviter les contestations trop rapides. Donc là, je pense que le gouvernement Carney se dit on va essayer d'étirer la sauce en faisant quelques petites concessions d'ici les midterms, puis après ça, la situation politique va tellement changer que ça va nous placer plus favorablement. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, regardons les concessions qu'on a faites récemment. Tu sais, la taxe sur les trucs numériques, ben c'est une taxe qu'on a inventée il y a quelques années, oui, que là, on laisse tomber. Donc tu sais, on fait une concession par rapport à quelque chose que nous, on a créé. Après ça, tu sais, l'alcool, là, il y a un débat constitutionnel ici, là, on ramène toujours ça, là, mais c'est qui a le droit de décider s'il y a de l'alcool américain ou pas, là, c'est les provinces.
C'est le provincial. C'est le fédéral.
Ouais. Ben, c'est ça. Mais ça reste que c'est une concession qu'on peut faire en essayant de lâcher du lousse, si on veut, pour ramener l'alcool sur les tablettes, pour dire aux États-Unis qu'on fait notre part, tu sais. Puis c'est sûr que c'est frustrant parce que ça donne l'impression qu'on est des lavettes puis qu'on donne tout ce qu'il veut à Trump puis on essaie tout le temps de l'apaiser. Mais, tu sais, on l'a essayé, ça, de se braquer puis faire des contre-tarifs, puis ça n'a pas marché non plus.
OK, mais donc à quoi là... ça a servi de mettre en place un homme d'âge mûr, là, dans la soixantaine, avec un profil économique intéressant pour faire face aux gros méchants de l'autre côté? Jusqu'à maintenant, ça aura servi à rien.
Bien, il servait à rien, c'est parce que dans les circonstances, je ne pense pas qu'on avait... Il n'y a aucune stratégie, à mon sens, qui aurait fonctionné mieux qu'en ce moment. Je suis pas en train de dire que Carney est parfait, là. Il y a des affaires qui m'énervent dans ce qu'il fait, mais... Tu sais, ultimement, comme je te disais tantôt, on a essayé de faire des contre-tarifs puis de faire une guerre coup pour coup. Puis rappelons-nous Doug Ford qui sortait il vidait sa bouteille de Crown Royal. Tu sais, il y a eu une levée émotive là, au début de ce conflit tarifaire-là. Puis ça n'a rien donné pareil parce que finalement, on faisait juste remettre de la chaleur dans le conflit. Donc, je pense que la stratégie, c'est beaucoup plus de diminuer la chaleur en dessous du poêle. Faire des concessions sur le pont Gordie Howe, ben c'est plate parce qu'on va perdre de l'argent à long terme, mais au moins on va se payer le pont avant. Hein. Mm-hmm. Puis après ça, ben, on laisse les choses se placer, on laisse le midterm passer, puis on change la stratégie complètement après. Là.
Est-ce que la force de Mark Carney par rapport justement à un Pierre Poilievre, s'il avait été au pouvoir, c'est les ententes qu'il tisse avec le reste du monde, là. Puis je pense notamment à l'Union européenne?
Ben clairement, cette stratégie-là fonctionne parce que ça tu sais, à court terme, on va pas ouvrir des nouveaux marchands en claquant des doigts juste parce qu'on fait une visite diplomatique. Mais au moins, ça donne le momentum pour se dire, regarde, on va commencer à réfléchir à la planète au complet et pas juste de se marier avec les États-Unis. Ce qui fait en sorte que on peut avoir une perspective plus favorable, même si, par exemple, après le midterm, ça change pas puis on est encore en guerre tarifaire. On aura certaines alternatives, mais à court-moyen terme, on n'a pas le choix d'être quand même smart avec les États-Unis, que ce soit Poilievre, que ce soit Carney, que ce soit même Blanchette, s'il avait été premier ministre, évidemment, ça se peut pas tant, mais parce que tout le monde a la même lecture stratégique. T'sais, à un moment donné, Poilievre utilise la situation pour mettre de la pression sur Carney puis paraître comme l'opposition qui est donc bien plus forte et qui est capable, mais dans la vraie vie, il aurait fait la même chose probablement au gouvernement avec quelques nuances. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives quand tu as le gros bully qui dit « Moi, je vais te donner des tarifs puis je m'en fous des conséquences. »
David Chabot, ça a été un plaisir. Je te souhaite de passer une super de belle semaine puis on se reparle la semaine prochaine.
Oui, en studio la semaine prochaine.
Les boys. Yes, sir! Salut!
Salut!
David Chabot, chroniqueur en politique internationale à qui on aime bien jaser. Surtout le lundi, on va se le dire. On
se
déplace normalement.
Exactement.
C'est lundi, on débute la semaine avec lui pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans
la
dernière semaine.
Toujours
mais
plein
aussi
de choses.
S'en
vient. Ouais, puis il se passe toujours plein de choses intéressantes la fin de semaine en politique internationale, là, surtout avec Donald Trump où ça ne cesse de bouger.
Je reviens un peu sur la discussion qu'on avait ce matin, les trois, avec Max qui n'avait pas d'avis. Là. De savoir que la Russie a des difficultés contre l'Ukraine,
ouais,
que les États-Unis sont en train de manquer de missiles pour continuer leur mission en Iran, je trouve ça assez particulier puisqu'on s'entend que c'est deux forces mondiales.
Ben oui. Hey, normalement, la Russie aurait dû bouffer l'Ukraine en 48 heures.
Ben, 24-48 heures.
Puis les États-Unis auraient dû bouffer l'Iran une fin de semaine.
Ouais.
Puis on est dans des situations, je lisais encore aujourd'hui, là, 13 morts en Russie, je pense, des attaques de drones de l'Ukraine. Et qui aurait pensé au début de ce conflit-là que l'Ukraine serait capable de développer des technologies assez importantes pour être capable d'attaquer les Russes en territoire russe avec des drones? Personne.
Personne. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se régler aux États-Unis. J'ai hâte de voir qui va être accusé par Donald Trump d'être responsable
du fait qu'on manque de missiles. Parce que c'est sûr que ce ne sera pas lui.
C'est sûr que ce ne sera pas lui. On a donné une force aux Iraniens qu'ils ne savaient pas, c'est-à-dire c'est le contrôle du détroit d'Hormuz. Puis là, eux autres, ils se disent, tant qu'à avoir cette force-là de laisser craindre le pire dans le détroit puis avoir un impact sur 20 % du pétrole, on est aussi bien d'avoir notre cote. Ce qu'il n'y avait pas avant. Là, ils vont avoir une cote sur le pétrole qui passe.
Puis imagine-toi donner une cote à l'Iran, qui est un des régimes totalitaires les plus meurtriers de l'histoire, fait en sorte que le Hezbollah, le Hamas, les Houthis au Yémen vont continuer d'être financés à grands coups de millions de dollars. Des groupes terroristes.
Hâte de voir la suite. 8h49, on fait une courte pause, les amis. Après la pause, on aura le plaisir de jaser avec Nicolas Gagnon, qui est directeur Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Max, sur la route?
Ça roule super bien ce matin. Pour nous informer de